Incroyable. C'est toujours incroyable de voir le lien entre la présentation et la prédication. Parce que Manu, il a parlé des petits oiseaux. Alors, en plus, on était bien placés parce que quand on est là-bas, finalement, on voit les petits oiseaux qui passent en face là et on voit ceux qui sont dans le jardin là. Donc, le Seigneur qui prend soin des petits oiseaux. Et on va parler du bon berger qui prend soin des brebis. Il a parlé de bien reconnaître le bon son aussi avec le diapason, hein, et donc on va parler de reconnaître la voix du berger et de bien lui obéir. Donc ça suit bien. Donc j'avais commencé en parlant sur le psaume 23, hein, il y a probablement un mois. Je vais continuer là-dessus et je pouvais pas éviter en parlant du bon berger de parler de Jean 10. Alors c'est pareil, hein, du coup, psaume 23, Jean 10, c'est les passages où on n'est jamais... On n'est pas toujours enclin à prêcher là-dessus parce que c'est très connu et qu'on se dit qu'est-ce que je vais encore apporter. Mais bon, voilà, c'est comme ça. J'espère quand même que vous en apprendrez quelque chose. On avait vu la fois dernière que l'image du berger, elle est avant tout spirituelle, hein, même s'il prend soin de nous physiquement, c'est vrai. L'image du berger, elle est avant tout spirituelle. Il prend soin de nous spirituellement, il nous nourrit et il met toutes les conditions pour qu'on grandisse. On avait vu qu'il nous emmène là où je peux manger. Et qu'il attend de moi que je me nourrisse moi-même. Il ne met pas la nourriture dans ma bouche. Le berger ne va pas arracher l'herbe et le mettre dans la bouche des brebis. Elles se nourrissent toutes seules. Il les amène juste au bon endroit. Et on a vu qu'il donnait la paix et que ça ne voulait pas dire qu'on n'aurait pas d'épreuves. C'est-à-dire qu'au sein des épreuves, on aurait sa paix et qu'on pourrait les traverser dans sa paix. Alors c'était l'allusion à « Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. » Ah, ça ne dit pas « Je ne traverserai pas de vallée de l'ombre de la mort », au contraire. Ça dit « Quand je vais la passer, tu seras avec moi, tu seras là pour m'aider. » Donc l'idée, ça reste dans Jean 10 de contempler le berger, qui il est, comment il est, parce que ça fait du bien juste d'apprendre à le connaître. Et en parallèle de ça, d'avoir nos réactions à nous, en fait, hein, en tant que brebis, comment on se comporte par rapport au berger? Est-ce qu'on écoute sa voix? Est-ce qu'on lui obéit? Donc, on est dans Jean chapitre 10. Je ne l'ai pas recopié en plus, bien. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Donc le bon berger, ça c'est évident. Hein. C'est évident, sauf que finalement, Jésus ne parle pas tout de suite. Il ne nous dit pas tout de suite qu'il est le bon berger. Il dit, voilà, en fait, il nous explique ça par une image entre celui qui ne l'est pas et pourquoi il ne l'est pas, et celui qui l'est et pourquoi il l'est. Et finalement, cette phrase de « je suis le bon berger », on la retrouve qu'au verset 11, en fait. Et c'est au verset 11 où il dit, là, voilà, franchement, « je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis ». Alors, le mot grec, des fois on est obligé d'aller regarder un petit peu, hein, mais moi, le bon berger, ça me travaillait de savoir, mais c'est quoi le mot qui est derrière bon, en fait? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Parce que bon, en français, ça peut prendre pas mal de significations, en fait. Et là, le mot grec derrière, c'est kalos, et en fait, il a tout un tas de significations. Il a un tas de significations, alors que j'ai listé ici, vous avez vu, ça fait pas mal de monde. Alors, j'ai pas inventé, hein, j'ai été récupérer ça quand on voit les numéros Strong, hein, il y a toutes les occurrences du mot et les différentes significations, ou comment c'est traduit, en tout cas, dans notre langue. Et donc, si on voit en détail ce mot, kalos, on voit plusieurs formes de beauté, en fait. Et c'est plein de déclinaisons de la beauté. Donc, la première, c'est beau à regarder, il y a une belle forme, il est magnifique. La deuxième, c'est bon, excellent dans sa nature et ses caractéristiques, et donc bien adapté à ses fins. Ça se décline après en véritable, approuvé, précieux, joint aux hommes désignés par leurs fonctions, compétent, capable, honorable, noble. La troisième déclinaison de beauté, c'est beau en raison de la pureté de cœur et de vie, et donc digne de louange, bon moralement, c'est la notion de noblesse de cœur. L'autre signification, c'est honorable et digne d'honneur. Et la cinquième, la dernière, c'est un esprit agréable, réconfortant et confirmé. Alors, laquelle de ces significations est la bonne pour le bon berger? Toutes, hein. quand on voit ça, on se dit c'est génial d'avoir mis ce mot-là, parce qu'en fait, il a toutes ces significations-là, et toutes ces significations-là, elles collent bien à notre berger, en fait. Et j'aime bien aussi le adapter à ses fins, compétent, capable. En fait, c'est le bon berger. Alors, il est bon parce qu'il prend soin de nous, c'est la notion de bonté, de bienveillance, on va dire, mais j'aime bien dans la traduction française le bon parce que c'est le berger adapté, c'est le vrai berger aussi. C'est pas le faux berger, le mauvais berger. Donc c'est toutes ces significations-là qu'on a derrière le berger, et c'est intéressant de voir que Jésus il se met en opposition en fait entre lui qui représente tout ça et les autres en fait, et tous les autres, tous ceux qui peuvent se présenter comme bergers, eh ben ils correspondent pas à ces critères-là en fait. On va revenir à Jean au début du chapitre, hein, mais c'était important de préciser que c'était lui le bon berger, hein, forcément, tout parle de lui là-dedans. Donc les versets 1 et 2, « en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand, mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. » Donc je vais pas m'attarder très longtemps en fait là-dessus, je voulais m'attarder sur la voix du berger, sur apprendre à reconnaître sa voix. Donc voilà. Donc je veux passer assez rapidement là-dessus. Mais quand même, Jésus il nous donne un premier critère pour discerner celui qui entre dans la bergerie en fait. C'est qu'il y a une porte. Il y en a un qui rentre par la porte. C'est le bon berger. Pourquoi il rentre par la porte? Parce que déjà c'est normal de rentrer par la porte. C'est l'issue normale. Et en plus, il est autorisé à rentrer parce qu'il y a un portier. Il y a quelqu'un qui est là pour filtrer les accès et pour dire toi tu rentres, toi tu rentres pas. En gros, t'as des baskets, tu rentres. Donc il y a quelqu'un qui filtre et qui, là le bon berger il a l'autorisation de rentrer dans la bergerie en fait, donc c'est pour ça que lui il peut rentrer et que les autres ils sont obligés de passer par ailleurs, et donc Jésus nous dit voilà les autres ils prennent des chemins détournés, ils rentrent pas par la porte, ils vont essayer de passer au-dessus du mur, ils vont essayer de passer par la fenêtre, ils vont essayer de trouver un moyen de rentrer mais pas de manière directe, et c'est intéressant de savoir que Jésus il dit aussi un peu, alors après, si je ne me trompe pas, hein, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est la vérité, donc il est le vrai berger, le bon berger, celui qui ne trompe pas. Et il est le chemin aussi. Il est l'endroit par où il faut passer. Et tous ceux qui veulent prendre des chemins détournés, eh ben, ils nous emmènent ailleurs, en fait. Et si, dans nos paroles, dans ce qu'on enseigne, ici à l'église, on commençait à vous dire des choses un peu détournées, tu comprends, mais c'est pas exactement comme ça, faudrait plutôt faire... Voilà. Quand on commence à avoir un peu cette idée de manipulation, de choses compliquées, qu'on a besoin de travailler un peu les mots pour leur faire changer un peu leur sens, alors c'est pas bon signe. C'est pas bon signe. Et si vous entendez, ben voilà, il y a plein de sujets différents, hein, mais j'avais lu, je m'étais beaucoup documenté sur l'homosexualité à un moment, et sur les endroits où ça apparaît dans la Bible. Et ce qui m'intéressait, c'était de voir comment les gens, ils peuvent justifier ça en étant chrétiens. Et faut sortir les rames, en fait. Faut sortir les rames, parce que les versets, quand on les lit, ils sont assez clairs. Et donc, quand on veut leur faire dire l'inverse, on est obligé de commencer à détourner. Oui, mais c'est parce que là, à tel moment, telle circonstance, et là, c'est pas vraiment ça qu'il faut dire, en fait. Voilà. Et ça devient compliqué. L'évangile, il est simple. Et si on doit commencer à prendre des chemins détournés, c'est pas bon signe. Alors, je dis ça, et en même temps, Jésus, c'est le chemin, mais des fois, ça va tourner. Des fois, ça va monter. Ça va descendre raide et puis il va falloir s'accrocher aussi. Donc c'est un chemin qui est simple quelque part, mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'il est facile. Il y a des fois des difficultés, mais il nous accompagne, il est là avec nous. Et des fois, ceux qui ont des chemins détournés, ça ressemble à une grande avenue où il y a beaucoup de monde qui passe en fait. Vous voyez à quelle image je fais allusion, hein. Il y a un chemin qui est étroit, qui est pas toujours simple à prendre, mais il y en a un, c'est une grande avenue, tout le monde s'y engouffre parce que c'est facile. C'est facile. Mais c'est pas le bon chemin. Alors on a déjà un critère ici pour reconnaître entre... Donc Jésus nous dit, hein, celui qui monte par ailleurs, c'est un voleur, c'est un brigand. Donc c'est pas un pasteur, c'est pas un berger, c'est pas quelqu'un qui nous veut du bien en fait. Hein. Le voleur, le brigand, il est là pour piquer votre argent, piquer vos biens, et puis c'est pour son bénéfice à lui. Et donc ça aussi, on reconnaît en fait. Hein. Si on commence à faire des appels à me dire il faut plus d'argent, il faut plus de ceci, il faut plus de cela, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe parce qu'on n'est pas là pour s'enrichir en fait. Alors bien sûr, ce serait pour le Seigneur, hein, si on le faisait. Voilà, on va toujours mettre un enrobage, quelque chose. Mais voilà, c'est encore une fois, c'est pas direct. On met un masque. Donc si on met un masque, on voit pas la personne directement. Il y a quelque chose entre elle et nous. Au verset 3, le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Alors juste pour noter comme ça, mais c'est pareil, ce n'est pas l'idée, c'est pas l'idée principale en tout cas, le berger, il n'appelle pas toutes les brebis, il appelle les brebis qui lui appartiennent. Et ça, ça va à contre-courant du monde qui dit tout le monde sera sauvé, il est là pour tout le monde, il aime tout le monde. Oui, il aime tout le monde, mais il vient pour ses propres brebis. Il appelle ses brebis. Et il y a un distinguo qui dit ici entre les brebis qui lui appartiennent, qui reconnaissent sa voix, qui lui obéissent et qui le suivent. Et il y a les autres qui ne reconnaissent pas la voix en fait et qui du coup ne le suivent pas parce qu'elles ne lui appartiennent pas. Ah, il les fait sortir, il les conduit dehors. Alors je sais bien que c'est pas l'idée ici dans Jean, mais j'ai raccroché ça du psaume 23 et nous dire finalement il nous fait sortir de où? Il nous fait sortir du royaume du diable où on est prisonnier et il nous amène dans un lieu paisible. Il nous amène dans un lieu où on peut manger, où on peut manger à notre faim. Apprendre à reconnaître sa voix, c'est là où il faut un diapason. Donc Jean 10, versets 4 et 5, « Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. » Donc il y a une forme de réciprocité, en fait. Hein. Le berger, il connaît ses brebis, il appelle ses brebis, et les brebis, celles qui lui appartiennent, elles reconnaissent la voix du berger et elles le suivent. Il y a ça va dans les deux sens en fait. Hein. Il y en a un qui appelle et il y en a un qui reconnaît. Il y en a une, la brebis, qui reconnaît et qui suit, qui obéit. Donc on a chacun un rôle. Le Seigneur, il appelle et il attend des gens qui répondent et qui suivent. Il y a d'autres brebis qui ne reconnaissent pas sa voix et qui ne le suivent pas. Donc quelque part, il y a une forme de, au travers de ce verset, une forme d'élection en fait. Hein. C'est pas toujours plaisant, c'est des sujets dont on discute souvent le mardi soir. Mais voilà, en tout cas, elle est là, présente indirectement dans ce verset-là. Et je ne m'attarde pas là-dessus non plus. C'est-à-dire, du début à la fin, je ne vais jamais m'attarder. Hein, mais voilà, on va finir. Oula. Ça va aller encore plus vite si j'enlève des feuilles au fur et à mesure et que je ne les ai pas numérotées. C'est très très bien. Alors, quand j'avais décidé de prêcher là-dessus, je commençais à y réfléchir et Maï ne le savait pas. Je lui dis rarement sur quoi je vais prêcher en avance, en fait. Hein. Des fois, elle essaye de savoir un petit peu. Alors bon, ça dépend des fois. Mais là, voilà, elle n'avait aucune idée que j'étais déjà en train de cogiter là-dessus. Et elle m'a envoyé une petite vidéo en me disant, tiens, c'est intéressant. Et en fait, c'est un message du pasteur Patrice Martorano. Donc il y a le pasteur principal de l'église Momentum à Bordeaux. Donc c'est une église dont on entend pas mal parler sur Internet. Hein. Il y a des bonnes choses. Après c'est toujours pareil, faut toujours faire attention. Hein. Même dans ce qu'on dit nous, en fait, faut faire attention que nous on glisse pas et qu'il y ait d'autres choses que ce que le Seigneur il veut donner. Mais en tout cas il y a des bonnes choses. Il a pas mal de petites vidéos sur YouTube aussi. Et là il en a fait une sur comment reconnaître les faux prophètes. Et l'image qu'il emploie, elle est tellement bien que je lui ai repiqué intégralement. Hein, donc c'est vraiment pas de moi ce truc-là, je lui reprends parce que je trouve que c'est vraiment bien expliqué. Donc il commence à expliquer qu'en fait, il a été au Canada, il a eu l'occasion de discuter avec une dame qui a travaillé dans une banque. Et il discutait avec, on pourra peut-être avoir confirmation, il discutait avec elle de la manière de comment on fait pour discerner les faux billets. Voilà, faux prophètes, faux billets. Lui, il pensait que quand un billet arrivait pour examen, on avait plein de techniques pour savoir s'il était faux et qu'il fallait apprendre toutes ces techniques-là, en fait. Et cette dame, elle lui a dit qu'en fait, elle étudiait jamais les faux billets. Il les étudiait pas, en fait. Il ne faisait qu'étudier les vrais billets. Et c'est intéressant hein, comme moyen, parce que cette dame, elle lui expliquait qu'en fait, ils voient tellement passer de vrais billets dans leurs mains qu'ils en reconnaissent le toucher, qu'ils en reconnaissent le son que ça fait quand on le plisse un peu, qu'ils reconnaissent le moindre détail dans le billet. Il y a un tas de choses hein, sur les billets comme ça. Et donc, on leur donne pas des faux billets pour leur montrer, regarde, c'est telle erreur. On leur montre que le vrai. Et ils s'habituent tellement au vrai que quand il y en a un qui arrive et... Oh, celui-là, il... Il touche pas pareil, hein, celui-là. Et ah, il fait pas le même bruit. En fait, ils le reconnaissent. Et elle dit, ne serait-ce que le prendre dans notre main, on sait déjà que c'est un faux billet. Et on nous a jamais dit ce que c'était un faux billet. On nous a jamais expliqué en détail. Mais on connaît tellement le vrai. Alors, sur les billets, voilà, il y a des tonnes de sécurité, hein. Mais ça sert à rien de les apprendre. Il faut avoir que des vrais billets dans les mains. Alors nous, malheureusement, on ne sait pas trop ce qu'on a dans les mains. Hein. C'est tout le problème. En banque, ils peuvent le certifier. Mais nous, on voit des tonnes de billets passer et on ne sait pas trop s'il n'y a pas une bonne proportion qui sont faux, en fait. Hein. Je ne sais plus lequel des billets le plus utilisé. Je crois qu'il y a 40% de faux dans la nature. Donc voilà, dans ce qu'on a dans nos portefeuilles, probablement qu'il y a beaucoup de faux. Donc c'est voilà, il y a des coupures comme ça dans la moitié de vos billets. Il y a probablement des stupéfiants qui sont dessus aussi, puisque nous on les teste au boulot et il y a plein de choses. Nous on le reconnaît pas parce qu'on n'a pas l'œil averti, on n'a pas les machines pour les tester non plus. Hein. Mais il y a plein de, vous savez, il y a le filigrane, il y a l'hologramme avec les couleurs, il y a des dessins qui apparaissent par transparence. Voilà, il y a des tonnes de sécurité qui ont été mises en place sur les billets. Il y avait même le détail. Hein. On trouve ça, du coup, sur la Banque de France, en fait. On vous explique ce que c'est un vrai billet. On ne vous dit pas, voilà, le faux, ça va être telle ou telle chose. Il y a plein de manières de faire des faux. De faire des faux, en deux mots. Mais le vrai billet, il doit comporter toutes ces choses-là. S'il en manque une, c'est pas bon signe. C'est la même chose avec les brebis. On parlait des brebis, hein, j'y reviens quand même. On ne parle pas que d'argent. Elles doivent tellement bien connaître le berger qu'elles peuvent reconnaître sa voix entre toutes. Et quand il appelle, quand il demande quelque chose, elles doivent reconnaître sa voix. Elles doivent reconnaître sa silhouette. Alors il y a plein de critères comme ça qu'on pourrait imaginer, hein, sur le berger. Elles doivent le connaître par cœur. Et il n'y a pas besoin, même si ça peut être utile, ça peut être intéressant, hein, pour l'étude, mais il n'y a pas besoin de faire une étude en détail sur le diable, sur les démons, sur tout ce qu'il peut y avoir autour qui pourrait nous attirer, sur les faux prophètes. Les faux prophètes, il y a autant de faux prophètes possibles que de techniques, que de doctrines, en fait, finalement. On peut avoir des tonnes de faux prophètes, on n'aura jamais fait le tour. Donc si on faisait une étude sur les faux prophètes, on ne s'arrêterait jamais. On irait jusqu'au bout du monde et on trouverait encore d'autres possibilités. Notre seul objet d'étude, ça doit être le Seigneur, en fait. Et en le connaissant, lui, par cœur, quand il y aura autre chose, on se dira « Ah, ça, c'est un faux prophète, c'est pas bon, ça. » Comment réagit un animal sauvage aussi? Quand il mange, il boit tranquillement. On a été, il n'y a pas très longtemps, faire des photos dans le bois. Et on faisait des photos de champignons. On a vite été rattrapé par la pluie, hein, parce que c'est le nord. Mais je me suis écarté un peu parce que je voulais avoir un peu la paix et pas être avec, dès que je trouve un champignon sympa, vous m'avoir quatre personnes autour. Donc je me suis écarté un peu et d'un seul coup j'ai entendu et puis il y a un animal, hein, ça ressemblait à, je sais pas, un faisan, quelque chose comme ça peut-être, j'ai pas eu le temps de le voir en fait. Mais j'ai entendu le bruit et ça a détalé. Et l'animal sauvage, en fait, il est tellement habitué à son calme, à son environnement à lui, quand il voit une silhouette d'humain qui arrive, oh, qu'est-ce que c'est que ça? Il est aux aguets. Et si ça s'approche de lui, il se sauve. Et là, le Seigneur, c'est un peu ce qu'il nous dit, hein, les brebis, si elles entendent un étranger, si elles voient un étranger, elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Elles ne sont pas habituées, en fait. Elles sont habituées à la voix du berger, à avoir du calme, tout ce qu'il faut. Et quand il y a quelque chose qui vient et qui ne colle pas avec ça, elles fuient. Alors là aussi, je mets un bémol dans le sens où on n'est pas obligé de courir tout le temps, hein, dès qu'il y a un bruit. Le Seigneur, il nous demande de tenir bon dans l'épreuve aussi. Il nous dit, il y a un lion qui rôde, il ne nous dit pas fuyez, il nous dit résister. Donc voilà, il y a quand même une posture aussi à savoir ce que le Seigneur veut de nous. Mais il s'agit de ne pas rester à continuer à être nourri par la mauvaise chose, en fait. Là, dans le cadre du mauvais berger ou des faux prophètes, s'il y a quelque chose de faux qui commence à être dit, on ne doit pas rester et continuer, écouter et puis s'imprégner de ça, en fait. Parce que l'idée, c'est de s'imprégner de la voix du berger. Si on commence à s'imprégner d'autres choses, eh ben on va dériver tout doucement. On va perdre le « là », on va perdre la bonne sonorité, en fait. Alors, comment je peux apprendre la voix du berger? Il y a un diapason, en fait. Hein. Alors, je ne l'ai pas avec moi, en plus, pour bien faire. Il y a un diapason, c'est la Bible, en fait. C'est la voix du berger. Et ça permet déjà d'avoir le là, de savoir comment il parle le berger. Et si ça parle pas avec le même son, se dire, ça c'est bizarre aussi. Alors en Job 33, versets 14 à 18, il y a Élihu qui fait partie des trois amis de Job, on va dire amis entre guillemets, mais voilà, ils sont venus le voir quand il était pas bien. Il lui parle et il lui dit: Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Voilà. Alors là, Élihu, il cite juste les songes, les visions nocturnes. Il dit, voilà, Dieu, il peut parler la nuit, mais il peut parler de plein de manières, en fait. Le début du verset, c'est, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais on n'y prend pas garde. Et donc, on a une oreille qui a besoin d'être affûtée, en fait, hein, pour apprendre à reconnaître la voix du Seigneur. Il faut qu'on travaille avec ça et qu'on apprenne à le reconnaître. Alors, des fois, il va parler par des songes, il ne le fait pas avec tout le monde. Des fois, il va parler au travers d'un frère ou d'une sœur. Ça peut venir du micro ici, le dimanche matin. C'est un peu l'objectif, que le Seigneur il nous parle. Il peut nous parler par les circonstances, il peut parler par... Voilà, on peut faire une longue liste comme ça, hein. Le problème, c'est qu'on aurait tendance, si on faisait ça, à se dire, bah voilà, pour apprendre à reconnaître la voix du Seigneur, il faut que j'apprenne à interpréter les songes. Comme ça, quand il va me parler en songe, je vais comprendre. Et on va rester dans les songes et on va peut-être oublier que le Seigneur, il parle par autre chose à côté. Si on dit, bah le Seigneur, il parle que par ce qui est dit au micro, ce serait triste. On va venir que le dimanche écouter, le reste du temps, on ne sera pas à son écoute. On va se fixer sur un moyen. Et c'est dommage en fait, parce qu'il a plein de moyens de nous parler. Donc c'est à nous à rester ouverts et à reconnaître le Seigneur quand il nous parle. Mais au milieu de ces 56 moyens là, ou je ne sais pas combien, il y a la parole de Dieu. Et celle-là, elle est sûre, elle n'est pas diluée, parce que moi dans ce que je vous dis, bah, il y a des versets, c'est sûr, mais il y a aussi ce que moi je rajoute dans le texte. Et ça veut dire quelque part, je suis un peu en train de diluer la parole du Seigneur. Là dans la Bible, on a la parole du Seigneur qui est intégrale, qui est complète, on sait qu'il n'y a pas de raté. Et donc, il n'y a pas de raison de s'en priver, en fait. Si on se prive de ça, on se prive de la meilleure source qu'on puisse avoir de parole du Seigneur, de sa voix. Alors, après, je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter le reste. Si le Seigneur il parle par un songe, c'est très bien. Il complète, il parle par plein d'autres manières. Mais on ne peut pas se priver de la parole de Dieu, se priver de la Bible, et se dire, moi, je suis à l'écoute du Seigneur. Ben non. Si tu as l'écoute du Seigneur, la principale source, c'est ça, en fait. Et le reste, le Seigneur va compléter. Mais ça, ça va suivre, comme on disait tout à l'heure avec le diapason, tout ce qui sera dit autour, ça aura la même sonorité que ce qui est dans la Bible. Il ne peut pas se contredire. Donc, la Bible, c'est vraiment la référence, en fait. Et si on ne la lit pas, alors on n'apprendra pas à connaître la voix du Seigneur. Alors, il ne s'agit pas... On ne peut malheureusement pas se contenter de lire la Bible. Pourquoi ? Parce que si on ne la médite pas, si on ne la travaille pas, si on ne la met pas en application, on a entendu ça dans une prière tout à l'heure, ce n'est pas une théorie qu'on apprend. Il ne s'agit pas d'apprendre la Bible par cœur et hop, voilà, je suis chrétien, je connais toute la Bible par cœur. Déjà, il y a du boulot, hein. Mais il ne faut pas que ça reste dans nos têtes, en fait. On doit le vivre après, derrière. Et les brebis, elles connaissent le berger. Pourquoi ? Parce qu'elles vivent avec lui. En permanence, c'est concret pour elles. Elles n'ont pas appris dans un livre, bah, le vrai berger, si un jour vous le rencontrez, il ressemble à ça, il parle comme ça, sa voix elle ressemble à peu près à ça, il met tel genre de vêtements, voilà. Non, elles vivent avec lui, et donc elles apprennent à le connaître en vivant avec lui. On apprend à connaître le Seigneur par l'expérience, en fait. J'ai vécu beaucoup ça, en fait, je suis assez... J'aurais pas assez d'une vie pour apprendre tout ce que j'aimerais bien apprendre. Il y a plein de choses sympas, hein, mais voilà, il y a un moment donné, il faut faire des choix. Et bon, mais il y a des sujets qui m'ont intéressé et qui m'intéressent encore. Je me suis intéressé à la photographie à un moment donné. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Bon, maintenant c'est facile, on fait YouTube, hop, faut apprendre la photographie et puis on tombe sur des tonnes de vidéos et puis on peut en enfiler comme ça beaucoup. Est-ce que regarder toutes ces vidéos pendant des heures, ça a fait de moi un bon photographe ? Non, malheureusement non. Ça donne des bons conseils, mais après, ce qu'il faut, c'est aller prendre son appareil, aller faire des photos et se bouger pour aller faire des photos. Et là, on rencontre des situations, des choses différentes et on finit par apprendre et voilà. Donc c'est une aide, c'est une bonne chose, mais ça ne fait pas de moi un bon photographe. Je crois que j'ai déjà pris l'exemple aussi de quand on apprend C'est pareil, il y a tellement de langages de programmation possibles, il y en a plein qui sont intéressants, mais voilà, je me suis dit, ah tiens, celui-là, j'aimerais bien l'apprendre. Donc j'ai fait des cours, des cours, des cours, et puis après, j'ai réussi à faire du télétravail et avoir ça en projet de télétravail. Je me suis dit, cool, je suis arrivé devant mon truc, et puis bah, par quoi je commence? Et en fait, on se retrouve devant la page, et puis bah, on sait plus par quoi commencer. On écrit quelques lignes, et puis mince, ça avait l'air facile dans la vidéo pourtant. Donc on galère, et puis on rencontre des problèmes qui n'ont jamais été donnés par les gens. Et je fais comment pour ça? Puis voilà, on sort les rames et on galère. Mais après bon, 2 ans et des poussières de galère, on arrive à faire quelque chose. À la fin, on se dit, ah, bah là, je commence à le connaître un peu quand même. Voilà, il y a différence de comportement entre après des heures de vidéo, on fait, ah, oh, c'est bon, là, je suis au point, je connais le truc. Puis une fois qu'on commence, enfin, après 2 ans, on se dit, ah, je commence à connaître le truc. On est remis à notre place, en fait, hein, par la vie réelle et la concrétisation des choses. Et avec le Seigneur, on pourrait apprendre toute la Bible par cœur et se dire, oh, c'est bon, je suis chrétien, je connais tout, tout du Seigneur. Mais en fait, après des années avec lui, on se dit, oh, j'en suis qu'au début, Seigneur, je connais encore si peu de toi et montre-moi encore plus de choses. C'est vraiment la même chose et je voulais donner ces exemples pour qu'on ne soit pas des chrétiens théoriques en fait. Des chrétiens qui connaissent bien la Bible, qui ont bien appris les choses qu'il faut répondre, qui ont bien appris à faire les bonnes actions. Voilà, ça, c'est pas une vraie brebis en fait, hein. C'est, je sais pas, c'est un clone, c'est quelque chose, un robot peut-être, on fera des robots en forme de brebis. Ça aura tout d'une brebis, mais c'est pas une vraie brebis. Elle ne vit pas, elle ne connaît pas son berger en fait. Alors on a une aide aussi, hein, c'est vrai que je n'ai pas mentionné, mais on a une aide là-dedans, c'est le Saint-Esprit. Parce que la Bible, le Saint-Esprit, il nous fait ressortir les mots, il nous les fait comprendre, il nous montre ce qu'il a voulu dire en l'écrivant. Parce qu'un texte, c'est pareil, on peut le comprendre de plein de manières différentes. C'est comme ça pour la Bible, mais c'est comme ça pour les autres livres. Et du coup, le Saint-Esprit nous guide et il applique ces choses-là à notre vie. Et vous savez, on a tous cet exemple-là où on lit des passages, pendant des années on lit, et puis d'un seul coup on est dans des circonstances un peu différentes, et on relit ce passage, on se dit, oh, mais c'est tellement pour moi, j'avais jamais compris que c'était comme ça, et j'avais jamais compris ça comme ça. Et parce que les circonstances font qu'on le vit différemment. Et le Saint-Esprit utilise ça pour nous parler, pour nous montrer ce que le Seigneur y veut dire. Si on connaît la Bible par cœur sans la mettre en pratique, en fait, on n'est pas des chrétiens, hein. On est des docteurs de la loi, on est des théologiens, on en entend des fois hein, sur Arte, ils expliquent plein de choses, mais quand vous écoutez, vous dites, mais ils ne connaissent pas le Seigneur, c'est pas possible. Ils parlent de manière complètement théorique. On est des pharisiens à la rigueur aussi, ce qui n'est pas une bonne chose non plus, hein. Je ne sais pas ce qu'il y a de mieux à choisir là-dedans, hein, mais voilà, l'idée c'est d'être un chrétien, pas un docteur de la loi, pas un savant, pas un pharisien. Alors il y a un dernier élément dont je veux parler. C'est que tout ça nécessite du temps. Et je crois que ça, c'est le nerf de la guerre, en fait. Parce que, globalement, on doit tous savoir à peu près qu'il faut qu'on lise la parole si on veut grandir dans sa connaissance. On n'a pas vraiment le choix. Mais le temps, c'est vraiment le facteur qui est important parce que c'est comme ça qu'on connaît les gens, en fait. J'avais l'exemple de Marthe et Marie. Je ne sais plus si je l'ai. Non, raté. Alors, je ne l'ai pas pris ici, tant pis. L'épisode de Marthe et Marie, vous le connaissez, c'est dans Luc, chapitre 10. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, Marthe, elle fait à manger, elle fait probablement la vaisselle, elle prépare, elle met la table, et voilà. Et elle commence à dire, mais Seigneur, dis à Marie de m'aider un peu, qu'elle fasse quelque chose, quoi. Et Marie, elle était assise au pied du Seigneur, et elle l'écoutait. Et nous, on pourrait avoir tendance à faire des choses. Moi, pour être un bon chrétien, je vais le mettre en application. Alors, je vais faire plein de choses pour le Seigneur. Mais du coup, le Seigneur dit, mais non, ce que je veux, c'est que tu passes du temps avec moi. Tu t'assoies à mes pieds et que tu m'écoutes simplement, que tu apprennes à me connaître. Et ça, c'est dur, hein, parce qu'on a l'impression qu'on est en train de rien faire finalement. On s'assoit, puis on écoute, ouais, bon, c'est bien, mais il faut faire quelque chose dans la vie, quoi. On ne peut pas rester assis. Ouais, mais le faire quelque chose, il va venir après, une fois qu'on aura bien compris ce que le berger nous explique. Et il faut passer du temps assis. Ça peut paraître inutile, mais juste dans sa présence, à apprendre à le connaître. Et malheureusement, le diable, il est champion là-dedans. On a ces trucs-là, hein, forcément, ça joue. On a les ordinateurs, on a Internet, on a les enfants, on a le travail, on a la vie, on peut mettre des listes comme ça à volonté, hein. Même quand on n'a plus le travail, hein, pour constater chez les retraités, le temps, c'est un facteur clé, hein. C'est compliqué. On n'a jamais le temps, en fait. Et on n'a jamais le temps, et ça, c'est un jeu du diable, en fait, hein. Parce que si on n'a jamais le temps, on n'en donne pas beaucoup au Seigneur. On passe combien de temps vraiment consacré au Seigneur dans une journée? Alors ne le dites pas, hein. Je ne vous dirai pas non plus. C'est pas qu'une question de temps, vous savez, on ne va pas faire une échelle en disant voilà, bah moi, comme je passe 2 heures, je vais apprendre plus de lui. Ah, moi c'est 3, c'est mieux. Oh, moi c'est que 10 minutes, mince. Il n'y a pas d'échelle comme ça en fait. Hein. Mais au plus on passe de temps avec lui, au plus on apprendra à le connaître. Et après, on avancera bah, chacun à sa vitesse. Hein. On n'apprend pas tous à la même vitesse. On n'apprend pas tous à la même vitesse au même moment. Il y a des moments où on va vite apprendre avec le Seigneur. Et il y a des fois où bah, ça va être long. On va falloir qu'il nous répète les choses parce qu'on est, on est un peu dur à comprendre certaines choses. On doit passer du temps à écouter le bon berger. Et on a fait le, enfin, j'ai fait le lien tout à l'heure. Le bon berger, c'est aussi celui qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et on doit passer du temps à écouter la vérité, en fait, pour aiguiser nos oreilles à la vérité, à juste la vérité. Et je voulais juste citer Jean 8, 44, vous le connaissez aussi. Hein. C'est Jésus qui parle aux pharisiens. Alors vous voyez, pharisiens, qui connaissaient bien la Bible, qui, voilà, qui rajoutaient même beaucoup autour hein, pour être sûr qu'on applique bien la Bible. Il dit, vous avez pour père le diable, vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Vous voyez comment il peut dire ça aux pharisiens? C'est rude hein, quand même. On pourrait dire, mais mince, c'était quand même des gens... Alors nous, on a tendance à être un peu sévère avec eux aussi. Et on dit, voilà, les pharisiens, eux, c'était pas bien. Mais il pourrait très bien nous dire ça aussi, mais qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Tu n'as fait que lire la Bible, l'apprendre par cœur, et puis tu n'as jamais mis en pratique? Ben en fait, t'es pas au bon endroit. Hein. Avant le mariage, ah, Maï n'est pas là, mais je lui ai dit que je parlerais d'elle. Avant le mariage, on aime bien, alors après aussi, hein, je vous rassure, après le mariage aussi, on aime bien passer du temps avec son épouse. Avant encore plus, je sais pas, il y a quelque chose qui fait qu'on a, on a besoin de temps et c'est quelque chose qui nous prend en fait aux tripes hein, quand on a encore ces souvenirs là, c'est pas encore trop vieux pour Maï et moi, où voilà, on allait à des réunions la semaine, on allait pour la réunion, hein, mais qu'est-ce que c'était bien de se voir après, et puis ça, on essayait de faire durer, voilà, si on pouvait gagner une demi-heure, une heure après la réunion, voilà. On a été surpris comme ça, hein, d'ailleurs. Mais on essayait de grappiller tout ce qu'on pouvait. Et puis après, bon, repartait chacun de son côté, une demi-heure d'un côté, une demi-heure de l'autre. On ne se voyait pas la semaine. Et puis, ah oh ! Et puis alors, on a des messages. Après, on s'appelle quand on peut. Mais voilà, on essaye tout ce qu'on peut pour passer du temps avec l'autre. Et mais ça doit être comme ça avec le Seigneur. Ça doit rester comme ça entre mari et femme. Hein. Ça ne doit pas s'arrêter. La vie fait que c'est plus compliqué, mais voilà, faut réserver du temps et il faut continuer à alimenter ça en fait. Hein. Mais cette flamme, ce besoin qu'on a dans le cœur de passer du temps avec l'autre, on doit avoir ça avec le Seigneur. Et Marie, on a l'impression que c'était ça, quoi. Elle était devant, captivée, et puis il n'y avait plus que le Seigneur qui était là. Nous, quand on était à deux, on était dans la voiture, il pouvait se passer un ouragan à côté. Je pense qu'on l'aurait pas vu, quoi. On était juste ensemble, l'un avec l'autre. Qu'est-ce que c'était bien. Il pouvait se passer n'importe quoi à côté. Et avec le Seigneur, il se passe juste une mouche, un moustique à côté. Hop, je suis parti. Et puis, ah oui, Seigneur, j'étais en train de te prier, c'est vrai. J'étais en train de lire, j'étais où? Je ne me souviens plus vraiment où j'étais, en fait. Dites pas que je suis le seul à faire ça. Bon, alors c'est pas bon signe pour nous tous, en fait. Mais on s'éloigne si facilement, si facilement. Et après, on se rend compte, mais en fait, ce que je lisais vraiment. Ou je lisais, il y avait des mots, je voyais des phrases, et puis voilà. Et à la fin, il reste quoi? Pas grand-chose. C'est pour ça aussi qu'on ne peut pas se contenter de lire la parole. Il faut la méditer, il faut y réfléchir, il faut... comme ces chants qui tournent en rond, vous savez, dans notre tête pendant toute la semaine, mais il doit y avoir aussi ces versets qui tournent en rond dans notre tête toute la semaine, et ça travaille. Et le cerveau, après, il travaille même quand on s'en rend plus compte, en fait. Hein. Et le Seigneur, il fait rentrer les choses dans notre cœur, et on s'aperçoit, mais, ah ouais, ça a bien, bien cogité, et on le vit, ce verset, en fait, on le vit. Même en passant autant de temps avant le mariage, on a des surprises. ça, pareil, j'espère que je suis pas tout seul, hein, mais voilà, il y a des surprises, on a découvert des choses, je me suis dit, ah, mince! Ah ouais, quand même! Je parle pas que dans un sens, c'est dans l'autre, c'est dans les deux sens en fait. Hein. Chacun a dû découvrir, ah, oh, il était gros, ronchon comme ça, grognon comme ça. Mais t'étais pas comme ça quand on était pas mariés. Comment ça se fait? Ben non, parce qu'on était dans notre petit monde à deux, dans notre bulle, et puis elle a découvert, voilà. Elle a découvert l'impatience, elle a découvert plein de défauts que vous voyez peut-être pas, hein, mais elle est tous les jours avec moi. Tous les jours, elle se rend compte de mes défauts. Alors la bonne nouvelle, c'est que tous les jours, elle se rend compte que le Seigneur y travaille et qu'il les corrige ses défauts. Ça, je peux en témoigner. Et c'est pareil dans l'autre sens. Il y a des choses qui restent, mais c'est pas grave, c'est une question de temps. Est-ce qu'il y aura des surprises quand on va arriver au ciel? Ouais, mais alors j'espère que ce sera que des bonnes. Parce que là, il y a une mauvaise surprise en Matthieu 7. Vous la connaissez par cœur aussi, on le cite souvent, hein, ce passage-là. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, sinon je vais choper un torticolis à force. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ça aussi, c'est un passage qui est violent, hein, pour nous. Et on revient à Marthe, en fait. Hein. Seigneur, Seigneur, j'ai fait à manger pour toi, j'ai préparé le banquet pour toi, j'avais nettoyé toute la maison pour toi, j'ai fait la vaisselle, il ne restait plus rien après, c'était propre. C'était vachement bien pour toi. Et mais c'est pas ça que je t'ai demandé. Je t'ai pas demandé de faire des miracles, je t'ai pas demandé de chasser des démons, je t'ai demandé juste de me connaître, en fait. Et quand nous, on connaît le Seigneur, on retrouve cette idée de réciprocité, lui, il nous connaît aussi. Et quand on arrivera devant lui, il pourra nous prendre dans ses bras et dire, Michael, je te connais. Je peux citer tout le monde dans la pièce, mais voilà, il pourra nous appeler par notre propre prénom et dire, je te connais, je t'aime. Et c'est pas une surprise, c'est pas, qui êtes-vous? On rigole, mais ça, c'est un peu ça, hein, c'est les gens qui se présentent devant lui, qui disent, j'ai fait ça, ça et ça et ça pour toi. T'es qui? Je t'ai jamais connu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu ce temps de connaissance avec lui, c'est l'épouse. L'Église, c'est l'épouse. Et donc, quelque part, là, on est dans le moment des fiançailles, en fait. On est encore séparés de lui, mais on apprend à le connaître, on apprend. Et qu'au jour du mariage, il n'y ait pas de surprise, en fait. Sauf une bonne surprise, parce qu'on découvre qu'il est encore plus grand que ce qu'on connaît, que ce qu'on avait connu ici. Mais il ne doit pas y avoir cette surprise de, mais mince, c'était pas l'épouse que je connaissais. C'était pas notre part, le mari que j'imaginais. Ça doit pas faire ça à la fin. Alors je termine avec juste le verset suivant dans Jean 10, j'ai trouvé ça assez intéressant que Jésus y mette ça à la suite. Alors après, il parle d'autres choses, hein, on peut passer longtemps sur Jean 10, je me suis limité juste au premier verset, mais Jean 10, verset 6, donc Jésus y parle à ses disciples, Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Oh, mince. Ça aussi, hein, c'est dur. Les disciples, ils étaient avec Jésus, ils l'écoutaient parler, et puis là, Jésus leur dit tout ça, et puis ça passe là, ça ressort là, ils n'ont pas compris. Ils sont pas bons, les disciples. Non, on ne peut pas les juger comme ça, parce qu'eux, ils n'avaient pas le Saint-Esprit, l'œuvre n'était pas terminée, il y a beaucoup de choses qui leur échappaient, c'était normal que ça leur échappe, en fait. Hein. Ils n'étaient pas là pour tout comprendre avant, sinon ils auraient empêché Jésus de mourir, presque. Alors s'ils avaient compris jusqu'au bout, ils comprenaient que Jésus, il mourrait pour eux. Mais nous, on n'a pas cette excuse-là. On n'a pas cette excuse de ouais, mais j'ai pas tout compris, c'est parce que tu n'avais pas terminé, parce qu'il n'y a pas le Saint-Esprit. On a le Saint-Esprit. On a la parole qui est terminée, qui est bouclée. On n'ajoute plus rien à la Bible depuis des centaines d'années. Tout est bouclé, on a tout ce qu'il faut pour comprendre. Alors, il ne faut vraiment pas qu'on termine avec Jésus qui nous dit, mais je viens de tout expliquer et t'as rien compris. La bonne nouvelle, c'est que même si on en arrive là, si on en est conscient, on a un bon point. Je vous dis tout à l'heure, on n'est pas sur une échelle, je vous parle de bon point. Mais on a un côté positif qui est qu'on peut retourner à lui et c'est pas terminé encore. On n'est pas encore à ce moment où il va juger, il va dire, toi, je t'ai jamais connu, toi, viens, je te connais. On a encore le temps de revenir à lui et dire, Seigneur, il y a des choses que j'ai pas compris. Et on en est tous là en réalité, hein. Il y a des choses que j'ai pas compris de toi. Alors explique-moi à nouveau. Et dans la suite, Jésus, il continue. Il donne d'autres explications sur le bon berger. Il explique la porte aussi. Et voilà, il va répéter plein de fois à ses disciples. Donc, je veux juste nous encourager c'est assez simple, hein, vous voyez, comme message, à lire la parole, à être attentif, à la méditer, à la mettre en pratique derrière, parce que c'est en vivant en pratique avec lui, et surtout, 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 à passer du temps avec lui pour apprendre à le connaître. Est-ce qu'on saisit ce que le berger veut dire? Est-ce qu'on en a même envie? Alors on peut peut-être même en arriver, hein, à ce stade où on ne sait même pas si on a envie de connaître le berger. Faut juste être honnête et dire, Seigneur, en fait, je ne sais même pas ce que je pense de toi, finalement. Mais je me mets devant toi et je t'explique les choses de manière claire. Voilà, j'en suis là, Seigneur. Et en fait, c'est juste ce qu'il attend. Et juste ce fait de reconnaître, Seigneur, je ne sais même pas finalement où j'en suis, je ne sais même pas si j'ai vraiment suffisamment envie de toi. Ben lui, il fera le reste. Et ça, c'est Philippiens 2, verset 13. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Donc même si je n'ai pas le vouloir, mais que je le reconnais, il y a un bon point, encore une fois. Je vais arrêter que mes bons points. Mais il y a un côté positif à ça, qui est de reconnaître que je n'ai peut-être même pas envie, en fait. Je n'ai même pas le vouloir en moi. Seigneur, je ne suis même pas sûr de vouloir assez te suivre. Je ne suis même pas sûr de vouloir passer ce temps avec toi. Mais ce n'est pas grave. Demandez-lui, parce qu'il va créer cette volonté en vous. Il va créer cette capacité à passer du temps avec lui. C'est lui qui fait tout dans nos vies, en fait. Et il ne s'agit pas de se forcer, de se dire, ok, bon, alors maintenant que Michael y a dit ça, je suis obligé de passer un quart d'heure tous les matins avec le Seigneur. Puis si j'y arrive, je passerai 20 minutes. Allez, soyons fous. C'est pas ça. C'est pas se forcer comme ça et on va retomber dans un côté religieux comme les pharisiens. C'est juste lui demander qu'on ait ce plaisir d'être dans sa présence. Et comme on n'avait pas besoin de se forcer à passer du temps avec sa fiancée, avec son épouse, ça viendra comme ça, en fait. C'est ça qu'on doit prier, hein, que le Seigneur y mette son amour dans notre cœur et qu'on aille librement auprès de lui et dire, mais Seigneur, ça fait qu'un quart d'heure, mais Seigneur, donne-moi encore du temps et tant pis, je laisse tomber ça et je veux passer du temps avec toi. Donc, juste nous encourager à ça et avoir un cœur honnête devant lui. Seigneur, merci pour cette image du berger, merci de ce que tu veux notre bien. Seigneur, nous l'avions vu dans le psaume 23, tu veux prendre soin de nous, tu veux donner tout ce que nous avons besoin pour notre subsistance. Seigneur, tu veux donner la paix. Et Seigneur, bien souvent, c'est nous qui ne t'écoutons pas et je te prie que tu nous apprennes à reconnaître ta voix. Seigneur, que tu nous donnes aussi cette volonté de passer du temps avec toi. Seigneur, d'écouter ta parole, de nous y habituer, de juste discipliner notre oreille à n'entendre que la vérité. Et Seigneur, merci de ce que toi tu veux le faire, Seigneur, tu attends juste notre accord. Et merci de ce que tu vas faire dans nos vies, Seigneur, et aide-nous à être attentifs et à passer ce temps. Seigneur, tu vois aussi le malin dont le plaisir c'est d'enlever notre temps, de l'occuper par autre chose. Et je te prie que tu nous aides à libérer ce temps pour toi, Seigneur, avec joie, Seigneur, pas comme une contrainte. Mais vraiment avec le cœur de passer du temps avec toi et d'être dans ta présence, de bénéficier de ta présence et de te louer en retour parce que tu nous rends heureux par ta présence, Seigneur. Amen.